Henri-Pierre Jancard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé gérant de la société Ether Financial Services. On va parler avec vous, eh bien, d'obligataire, hein, avec une initiative que vous avez lancée, donc pour accompagner justement ces émissions obligataires. Si on revient sur ce marché déjà en France, on a eu une vraie croissance de ce marché des émissions obligataires? On en est où?
Clairement, il y a une croissance, effectivement. En fait, elle est dans deux sens. Il y a à la fois une croissance en volume parce qu'il y a une désintermédiation qui va de l'avant en fait du côté des banques, mais il y a aussi en fait une croissance en termes de diversité puisqu'il y a de plus en plus d'emprunteurs aujourd'hui et des emprunteurs de plus en plus variés. Le témoin le plus flagrant, c'est effectivement actuellement le recours en fait à des bonds en fait pour financer des projets d'infrastructure par exemple, ou le développement important du marché des placements privés pour des signatures de plus en plus petites et sur des tickets de plus en plus de taille de plus en plus modeste en fait.
Donc il y avait eu beaucoup sur, on va dire c'était classique chez les entreprises du CAC 40 de faire une émission obligataire, c'est banal entre guillemets. Et par contre pour les ETI, PME, ça, voilà, il y a eu de nouvelles émissions, il y a eu en tout cas de la recherche de diversification.
Oui, clairement, en fait, l'idée, c'est que le marché obligataire, finalement, s'est adapté aux besoins et donc est rentré dans la brèche en fait, que présente le financement des entreprises de taille moyenne, des ETI. Ouais.
Alors, il faut peut-être le rappeler, c'est vrai qu'on parle beaucoup des marchés actions, les marchés obligataires, on en a parlé, mais il y a bien longtemps, c'est peut-être la génération des grands-parents qui avaient ça en tête. Acheter une obligation, c'était quelque chose de simple pour eux, puis ça a un peu disparu au profit des marchés actions. Clairement, c'est la crise financière qui a généré ce besoin de diversifier ses sources de financement et de revenir vers les obligations.
On dirait oui, en effet. Et c'est sûr qu'effectivement, en tout cas, le marché obligataire, finalement, est un marché qui a trouvé toute sa résonance en fait, chez les investisseurs institutionnels. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on voit beaucoup d'institutionnels qui rentrent sur des entreprises, sur des ETI en particulier, effectivement. Ouais.
Alors vous, ce que vous apportez, l'idée de ce que vous apportez, c'est d'avoir plus d'informations, de donner plus d'éléments, puisqu'on a effectivement sur ces émissions un certain nombre d'éléments techniques, un certain nombre d'éléments sur l'émetteur. Qu'est-ce que vous allez apporter justement dans ce marché?
En fait, dans ce marché, il y a un rôle d'un point de passage en fait, post-émission en l'occurrence, qui concerne la vie de l'obligation, sa vie juridique. Et en l'occurrence, il est nécessaire parfois de réunir les porteurs pour leur permettre de prendre des décisions qui affectent leurs droits et leurs obligations. Et ces décisions, en fait, elles nécessitent un certain formalisme, et donc le rôle de représentant de la masse est là pour faire en sorte que ces décisions soient prises dans le bon cadre. Et en fait, c'est un rôle qui a été mis en place par le législateur dans les années 30, en fait, en 35, pour simplifier en fait la gestion en fait des obligations. Et depuis, finalement, ce rôle s'est très bien installé dans le paysage et ça fonctionne parfaitement bien.
L'idée, c'est aussi qu'il y ait quelqu'un d'indépendant par rapport à l'émission elle-même, qu'on retrouve sur effectivement quelqu'un qui n'ait pas de conflit d'intérêt dans ce domaine-là.
Oui, tout à fait. En l'occurrence, c'est sûr qu'un acteur indépendant peut permettre de préserver les intérêts des investisseurs de la meilleure manière possible. Ce rôle, en fait, était un rôle qui était un peu secondaire, on va dire, dans les années passées. Et puis, finalement, il s'avère qu'il a toute sa valeur, effectivement, à un moment précis et dans des circonstances précises. Voilà.
Il y a aussi, on le voit, des opérations peut-être un peu plus complexes sur le plan technique, donc il y a aussi peut-être besoin d'avoir un peu plus d'informations que ce qui est, on va dire, factuellement donné.
Bien sûr, il y a des opérations effectivement, et je pense notamment au placement privé sur des signatures peut-être un peu moins classiques, où il y a besoin à la fois de gérer des sécurités, également des covenants, et surtout un échange d'informations important en fait entre l'émetteur et ses investisseurs. Et dans ce cas précis, il est important d'avoir effectivement un point de passage qui fonctionne bien, qui soit très fluide.
Alors, on a eu effectivement de ce côté-ci du private equity, on a eu une période, certains diront un peu folle, où on oubliait les covenants, ces fameuses clauses. Est-ce qu'on est revenu là-dessus? Est-ce que la situation des marchés amène à plus de de sécurité ou de...
Bien, dans le cas précis de l'euro PP, effectivement, les covenants sont bien là encore, tout à fait. Alors, tout dépend évidemment du risque et du profil de l'émetteur. Mais dans les émissions qu'on a vues récemment, il y a effectivement des covenants. Dans les financements plus complexes, type financement de projet par exemple par bonds, là évidemment ça n'a pas changé. Il y a toujours effectivement une quantité importante effectivement, de covenants et surtout d'échanges d'informations et de gestion de waivers dans le cas où on a besoin effectivement qui est assez important. Notre rôle en tant que représentant de la masse ne se substitue pas à celui d'un agent bien sûr. Par contre, il est là précisément pour encadrer le formalisme juridique des décisions qui doivent être prises dans la vie du crédit.
Mmh. Aujourd'hui, sur ce marché-là, on reste avec des taux de défaut qui sont, pour les investisseurs, acceptables.
Écoutez, c'est une question en fait très intéressante, mais je ne suis pas forcément le plus qualifié pour y répondre, bien sûr. Il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur des niveaux de taux de défaut qui sont assez faibles, en fait. Hein. Concrètement. Maintenant, les choses peuvent changer, bien sûr, en fonction des aléas.
Pour vous, donc, il y a vraiment cette idée d'accompagner les émetteurs et aussi les entreprises qui font ce type d'opération.
En fait, le service que l'on rend est un service un peu dual d'une certaine manière parce que nous sommes mandatés par l'émetteur pour représenter les investisseurs. Donc c'est une construction effectivement dans laquelle finalement on est vraiment entre les deux. Pour autant, le rôle est très clair. Et on est là pour représenter les investisseurs et agir dans leur intérêt commun. Mais effectivement, comme on est le point de passage entre les émetteurs et les investisseurs, quelque part, nous sommes là pour rendre service. Donc rendre service bien sûr aux émetteurs et aux investisseurs.
Dans votre idée, le marché devrait se développer peut-être plus rapidement encore, s'il a ce type d'éléments d'information, plus d'informations.
Il me semble qu'en fait, il se développera peut-être plus vite, moins vite. Finalement, je pense que c'est un peu indépendant de notre modeste fonction. Pour autant, si nous, on fait notre travail de manière rigoureuse et efficace, ça ne peut qu'aider, bien sûr, la relation émetteur-investisseur et donc à créer la confiance, qui est l'élément essentiel, bien sûr, dans le financement.
Eh bien, on suivra ça. Merci Henri-Pierre Jeancard d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.